Les 8 premiers jours du Vision Pro aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays, dont la France et l'Allemagne, avec parfois une mauvaise surprise à la douane. Dans un instant, retour sur cette première semaine de folie où on a vu des geeks prendre le métro, traverser la rue et même conduire avec. Plus sérieusement, que donnent les vrais tests? Quel succès peut-on prédire au masque de réalité mixte d'Apple en attendant son arrivée officielle en France? Toutes nos réponses à suivre. Le printemps sera chaud, le mois de mars en particulier. Mark Gurman prédit un événement Apple majeur dans les prochaines semaines, alors que les prochains Mac M3 et les premiers iPad Pro à écran OLED seraient en cours de production intensive. Le journal de la semaine avec les rumeurs autour de l'iPhone SE 4, Apple qui aurait déjà mis la main sur la première livrée de processeurs gravés en 2 nanomètres et le tournage de Foundation saison 3 à l'arrêt. Et puis le bonus exclusif pour notre communauté Patreon, retour sur le Festival de Cannes de l'intelligence artificielle, le WAICF 3e édition, dont je reviens tout juste. J'y ai croisé le Vision Pro, le robot humanoïde de Tesla, Bruno Le Maire et Luc Julia, le papa de Siri. Je lui ai demandé si son regard avait changé sur le masque de réalité mixte d'Apple. Pour en profiter, rendez-vous sur patreon.com/iWeek. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans iWeek, la semaine Apple, épisode 172. Ici Benjamin Vincent, nous sommes le samedi 10 février 2024, il est 11h26 du matin à Paris. Je salue la team iWeek avec moi. Bonjour Gilles.
Bonjour Benjamin. Et bonjour Comment Fabrice. Ah, moi ça va, je suis ravi de retrouver notre compagnon qui avait pris quelques vacances et qui est de retour parmi nous. Hosanna au plus haut des cieux.
Et oui, Fabrice, que ça fait plaisir de te retrouver dans iWeek.
Ben, plaisir partagé, merci beaucoup. Effectivement, j'ai pris un petit peu de recul. Me revoilà, attention, faites gaffe.
Il est de retour. Bon, je rappelle vos pédigrés. Fabrice Neumann, mentor en technologie, consultant. On te retrouve toujours sur ton site.
Mais oui, pro-fusion-conseil.fr.
Et puis Gilles Dounès, que vous connaissez tous également, ancien rédacteur en chef de Macplus.net et co-auteur d'iPod Backstage chez Duno. Alors on démarre tout de suite avec le Vision Pro qui déferle sur le monde, et c'est peu de le dire, depuis 8 jours, une grosse semaine donc écoulée depuis son lancement officiel, c'était vendredi 2 février 2024. Alors, on attendait beaucoup de ces premières prises en main, dans la vraie vie, on va dire, hein, découvrir des cas d'usage, voir les applications utilisées pour de vrai. Bon, on n'a pas été déçus, au moins. Hein. On croule sous les témoignages. N'est-ce pas, Fabrice?
Oui, bah forcément. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on a des témoignages forcément de youtubeurs et journalistes américains, puis aussi de français qui sont allés exprès, qui ont commandé leur Vision Pro à l'avance et qui sont allés exprès à New York pour aller le chercher. C'est vraiment c'est une période marrante parce que comme ça fait longtemps qu'on attendait une vraie nouveauté de la part d'Apple, bah la voilà, et donc on a tous envie de savoir ce que ça fait, et on n'est pas déçu sur les tests quand même. Il y a plein de choses qui se passent autour du Vision Pro, de ce que ça veut dire, de ce que ça peut potentiellement vouloir dire. Je trouve qu'il y a peut-être une conclusion à laquelle semble arriver tout le monde, c'est que c'est des idées pour le futur avec les technologies d'aujourd'hui. Et on s'y attendait un peu, et c'est très très souvent souligné en disant ça va être génial dans 5 ans.
Ouais. Alors effectivement, c'est ce que dit notamment Tim Cook, hein, le premier. Ceux qui, entre guillemets, adoptent le Vision Pro aujourd'hui sont des précurseurs avec tout ce que ça implique de perfectionnement à venir. Gilles, est-ce que tu as été surpris, est-ce que tu es surpris par cette déferlante autour du Vision Pro depuis 8 jours maintenant?
Ah non, du tout, parce que c'est un truc auquel je croyais beaucoup conceptuellement, d'autant que il y a des choses qui ont de plus en plus fuité, des choses qui ont été mises progressivement en avant par Apple et on pouvait se faire une image assez précise de ce que ça allait donner, sachant que le chiffre de 600 applications qui a été annoncé par Apple au lancement montrait que il y avait un vrai engouement des développeurs qui eux aussi avaient saisi tout le potentiel de ce que un produit déjà aussi abouti, on l'a dit, hein, avec les technologies, les composants d'aujourd'hui, mais quand même, il y a une marche qui a été franchie par rapport à tout ce qui était proposé auparavant.
Alors, les applis, puisque tu les évoques, Gilles, il y en a donc plus de 600 officiellement natives, hein, pour le Vision Pro. Je ne parle pas des apps iPad compatibles. Est-ce qu'il y en a une ou deux qui ont attiré votre attention ? Est-ce que vous avez en tête un ou deux noms d'appli dont vous vous dites, le jour où j'aurai un Vision Pro, ça fera partie des premières que j'installerai ?
La première qui me vient à l'esprit, c'est Disney+, en fait. J'ai l'impression que ça fait partie des celles qui sont qui ont eu le temps, en plus d'avoir un Vision Pro un peu avant sa sortie, pour proposer des environnements 3D,
immersives.
Immersive, merci, ouais, pour donner l'impression d'être dans une salle de cinéma, des choses comme ça, et puis avec des personnages, et puis on sait aussi toute la qualité des productions de tout un tas de séries, etc. Donc je pense que ça fait partie des choses que j'aurais envie d'essayer tout de suite, en termes d'immersion, effectivement, ouais.
Gilles, est-ce que tu as eu aussi un coup de cœur pour une appli dont tu as vu peut-être les premières images ces derniers jours?
Non, ce que j'ai, le premier truc que j'ai dit, c'est un simulateur de vol. On reparlera de vol ensuite, hein, mais un simulateur de vol ou un simulateur de jeu. Je crois qu'il y a un simulateur de golf déjà, mais c'est quand même très calme, très très soft. Un simulateur de voiture, de course de voiture, un simulateur de vol. Vraiment un simulateur de jeu d'action devrait donner des sensations, des émotions absolument sans commune mesure avec ce qu'on peut déjà éprouver devant un écran d'ordinateur ou devant un écran de télévision. Ça fait partie des trucs qui sont encore inventés là. C'est la balle est du côté des développeurs.
Ouais. Alors, vous trouverez un peu partout des sélections, des best-of des apps pour le Vision Pro. Il y en a quelques-unes qu'on peut quand même citer. Je fais notamment référence au top 10 de MacRumors. Et l'appli qui vient en numéro 2 dans ce classement de MacRumors, c'est une appli qui s'appelle Juno et qui, en fait, se substitue à l'appli que YouTube n'a pas voulu fournir au lancement du Vision Pro, en disant qu'il n'en ferait pas. Et tiens donc, eh bien, au bout de quelques jours, Fabrice, YouTube a changé d'avis.
Bah oui, c'était rigolo parce que au final, je pense que YouTube s'est vraiment pris les pieds dans le tapis avec ce sujet. Parce que... on sait bien, même si Apple positionne son casque de manière un petit peu différente, ça reste, semble-t-il, un super outil pour regarder tout un tas de choses, et donc forcément des vidéos YouTube. Et donc tous les tests qui sont parus depuis, notamment, parlent de cette application. Bon, on a voulu regarder des vidéos YouTube, et puis on a utilisé ça parce que YouTube est pas là. Donc ça fait une semaine, 10 jours que YouTube s'en prend plein les dents en disant « vous êtes pas présent, vous êtes pas présent, vous êtes pas présent ». C'était assez drôle. Cela dit, ils ont bien réagi. Ils se sont plantés et puis maintenant ils disent bon bah finalement il y a de la demande, on va y aller. C'était aussi un peu ce que disait de toute façon. C'est ce qu'il disait au début. On verra bien s'il y a besoin. C'est un peu comme Netflix. Il y a des chances que Netflix y aille aussi. Hein. Netflix, ils ont dit, on fera pas d'application tout de suite jusqu'à ce qu'ils le fassent parce qu'il y a un peu de demande. Ils verront bien. On peut pas non plus leur reprocher de pas avoir, de pas d'attendre de savoir s'il y avait besoin, s'il y avait de la demande pour ensuite engager un peu de développement pour faire l'application.
Ouais, dans ce cas, pourquoi affirmer qu'ils ne la feraient pas?
Il y avait des arrière-pensées.
Ils sont capables de changer d'avis. Gilles.
Ah, il y avait des arrière-pensées parce que ils disaient qu'ils allaient pouvoir proposer quelque chose de concurrent. Alors, dans ces conditions, pourquoi laisser Apple prendre de l'avance et même l'aider de ce côté-là? Fabrice a raison. Hein. Historiquement, le passage d'Apple dans ces changements de plateforme processeurs ont toujours été accompagnés de réticences de la part des gros parce que est-ce que ça vaut l'investissement financier en ressources humaines en temps pour cette nouveauté qui va peut-être pas marcher et ça s'est passé au moment du G4 qui n'a pas donné tout ce qu'on en espérait. Là, il y avait un peu de réticence aussi, mais ces gens-là sont des fournisseurs de contenu et il y a toujours l'exemple paradigmatique de l'iPod qui a montré tout l'intérêt d'avoir à la fois le device, le service et le contenu. Et il y avait forcément des arrière-pensées du côté du device pour avoir le trépied gagnant pour pouvoir éventuellement devenir le roi sur la montagne et le roi du marché en fait.
Oui, bon, il y a une différence quand même majeure, c'est le prix du Vision Pro, si on le compare au prix de l'iPod, hein, au lancement, je crois que c'était $499 de mémoire.
C'était très cher à l'époque et c'est le modèle, en fait, le premier exemple qui a servi ensuite sur toute l'industrie, que ce soit les premiers objets connectés. Mais c'est aussi le modèle de l'iPhone. Apple a inventé un modèle économique et tout le monde cherche à le reproduire, quelle que soit l'échelle en fait de prix.
Mmh. Bon, il y a quand même un marché nettement limité hein, dans le cas du Vision Pro, un device cher dont on sait qu'il ne sera pas produit en énorme quantité puisqu'on ne devrait pas dépasser le million d'exemplaires en 2024. Donc il y a aussi de l'attentisme de la part de ces grandes entreprises qui ont besoin d'avoir une base installée importante pour y aller dans certains cas.
Ouais, c'est vrai. Mais alors, juste si tu me permets, parce que je voudrais revenir avec mon cynisme aussi. N'oublions pas que il y a un parallèle qu'on peut faire avec l'iPhone. Gilles vient de l'évoquer. Quand l'iPhone est sorti, il y avait l'application YouTube dessus. Mais on savait pas ce qu'allait devenir l'iPhone. C'était pas tout. On fait souvent des parallèles de sortie entre l'iPhone et le Vision Pro, même si le prix n'est pas le même non plus. Mais on sait aussi que quelques temps après la sortie de l'iPhone, Google est arrivé avec Android et puis a sorti aussi ses propres trucs. On peut s'attendre à ce qu'il y ait un casque de réalité virtuelle annoncé par Google à la prochaine Google I/O. Et donc du coup, ils voulaient peut-être dire tiens, bah nous, on va faire du YouTube. YouTube immersif dans notre casque à nous. Donc jusqu'à ce que en fait il y a tellement de demandes malgré le petit nombre de casques Apple sortis et achetés relativement par rapport aux autres marchés. Voilà, ils ont peut-être voulu attendre ça et puis ils n'ont pas pu.
Pas faux. Bon, je reviens à ma liste d'app. Sinon je vais vous laisser m'embarquer dans des histoires d'il y a 20 ans. Alors parmi les apps conseillées par Mac Rumors, Special Cam, donc c'est une appli en fait qui reprend le flux vidéo d'un iPhone et qui vous permet de coller cette fenêtre quelque part dans votre environnement spatial, n'est-ce pas? Donc typiquement, ça peut être un iPhone dans la chambre du petit. Ça vous permet de garder un œil sur ce qu'il fait pendant que vous travaillez sur autre chose. Juno, puisqu'on en disait un mot, alors c'est une appli qui est payante, hein, qui est à 4,99$. Donc, comme elle est bien, apparemment, j'imagine que ceux qui la prennent, à défaut d'avoir une appli YouTube, vont l'adopter. Et donc, peut-être que YouTube va aussi perdre un petit peu de temps dans l'opération. Crouton, une appli de gestion de recettes de cuisine, alors qui est gratuite, mais qui propose des achats in-app. Blackbox, un jeu de puzzle. Ça me fait d'ailleurs penser à cet autre jeu que j'ai trouvé très rigolo, puisque c'est un casque de réalité mixte. On voit donc ce qui est devant soi, hein, dans le casque. Et c'est un jeu qui s'appuie sur l'aspirateur. Je sais pas si vous avez vu ce jeu.
Non.
En fait, on passe l'aspirateur chez soi et le masque va scanner la pièce et va disposer virtuellement des petites pastilles un peu à la Pac-Man sur le sol. Et donc, il faut passer avec son vrai aspirateur sur les pastilles virtuelles pour marquer des points. Et j'ai trouvé ça très
bien
rigolo,
pour le partage, voilà, des tâches.
Bah, exactement.
Non, mais du coup, ouais, effectivement, ça fait un peu jouer plutôt que de s'ennuyer à passer l'aspirateur. C'est rigolo. Ouais.
Absolument. Voilà, il y a tout un tas d'applications plus ou moins utilitaires, plus ou moins ludiques. Déjà, pour le Vision Pro, je suis sûr que si vous en avez récupéré un, vous n'avez pas attendu qu'on vous en parle pour les installer. On va continuer à dérouler donc cette page spéciale sur ces 8 premiers jours du Vision Pro. On a aussi découvert plein de vidéos en situation. J'avais envie de vous parler de cette vidéo qui fait déjà un peu référence, qui est signée Emails Tech, Emails avec un H. Déjà plus de 16 millions de vues. Elle est considérée par certains comme plus efficace que les pubs Apple pour montrer concrètement ce qu'on peut faire et à quoi sert le Vision Pro. Et en fait, c'est une vidéo assez simple, puisque c'est une déambulation dans un appartement, mais dans lequel des fenêtres ont été placées un peu partout. Et chaque fenêtre a un sens par rapport à l'endroit où on se trouve, dans la cuisine, dans le bureau, dans la chambre, etc. Vous l'avez vu cette vidéo, Fabrice ? Gilles ?
Oui, j'en ai vu une partie. C'est vrai que c'est intéressant parce que tu peux imaginer du coup vivre dans un appartement totalement vide et avoir ton salon avec donc la grande télé mais qui n'est visible que via le Vision Pro, et puis dans la cuisine tu as du coup l'application Crouton qui est là justement pour ça, ou des choses comme ça. C'est toute l'intérêt des fenêtres à position persistante. Tu la places quelque part et puis toi tu t'en vas et elle reste sur place, et c'est très bien. C'est assez rigolo, ouais, effectivement. Ouais.
Gilles ?
Mais c'est un rêve de chercheurs, d'étudiants, de gens qui travaillent sur plusieurs sources documentaires en même temps, qui ont tendance à s'étaler sur la table du salon ou par terre sur le sol de la chambre d'étudiants pour pouvoir croiser les sources et pouvoir produire quelque chose. Et là, tu es complètement immergé dans tes différentes sources et tu peux travailler et réfléchir et faire les liens. Enfin, c'est un rêve pour quelqu'un qui fait une thèse, quoi, ou un rapport ou un mémoire, ou qui prépare un cours pour l'année suivante. C'est ça qui m'a frappé dans le bureau au début de la vidéo. À partir de là, on peut effectivement naviguer partout. Oui.
Alors, jusqu'à il y a 8 jours, on avait eu droit qu'à des premières impressions de confrères un peu privilégiés qui avaient eu la possibilité de tester le Vision Pro pendant une grosse demi-heure, on va dire, à Cupertino. Depuis le 2 février, on a droit à des tests plus en profondeur, faits avec des masques qui ont été ramenés au bureau ou à la maison par ceux qui les écrivent. Fabrice, je pense évidemment au test de MKBHD, la star américaine des réseaux. toujours très apprécié pour son sérieux.
Oui. Il a eu la bonne idée aussi d'en faire plusieurs. Je trouve que c'est pas mal. C'est-à-dire que il a bien. Ce faisant et en l'indiquant justement dans ses tests, en disant bon, je vais faire des vidéos, mais je vais en faire plusieurs parce que c'est quand même tellement énorme, aussi bien dans ce que ça apporte que dans les manques, etc., que ça va prendre plusieurs jours, plusieurs semaines pour bien se rendre compte de ce que c'est. Donc assez peu typique pour lui. Il a même fait une vidéo juste de unboxing. Il en fait très rarement, mais même là pour ça, il en a fait une. Et puis ensuite, pour l'instant, j'en ai vu deux de sa part, de tests, de comment on utilise la chose. C'est vraiment pas mal. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Steven Robles aussi qui a fait ça, qui est le Bearded Teacher, donc le professeur barbu, qui est vraiment bien aussi, qui a fait une vidéo pas mal sur. Aussi de réactions, de premières réactions de gens qui l'avaient jamais utilisé avant. Alors il y a des membres de sa famille, il y a ses enfants et des copains, etc. Et on apprend aussi un petit peu, tant qu'on n'a pas eu ça sur la tête, un peu comment on réagit la première fois, est-ce qu'il marque, est-ce qu'il ne marque pas, est-ce qu'il marche, est-ce qu'il ne marche pas pour certains. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y en a d'autres qui m'ont frappé. Alors il y a celle de la première que j'ai vue, que j'ai vraiment trouvé très très fort, c'est The Verge, Nilay Patel, qui a été un des premiers à sortir et qui visiblement a passé 6 jours à très très peu dormir parce qu'il a testé un nombre incroyable de trucs. Et je trouve ce journaliste en plus très très fort pour poser les bonnes questions et faire ressortir certains détails alors que c'était un premier test, quoi. C'est une des plus complètes que j'ai vues aussi dans ce domaine, en se posant des bonnes questions sur l'interface. On y reviendra après parce que je trouve que sur l'interface il y a des vraies bonnes questions. Et puis il y en a deux autres qui m'ont bien frappé de vidéos. Il y en a une de Luc Miani qui fait pas mal de vidéos en plus de montage, démontage, un peu de c'est marrant, sympa et c'est souvent très très pointu aussi. Puis là il a décidé de passer 24 heures avec le masque sur la tête. Oui. Et donc il se prépare en disant pas forcément en dehors de chez lui, hein, mais donc en prévoyant des batteries externes pour pouvoir continuer à le porter tout le temps.
Ben oui. Et mais du coup 2-3 heures avec une batterie. Hein.
Voilà, mais donc là il a tenu 24 heures, y compris en dormant avec. Dans la vidéo finalement il dit pas trop ce qu'il a vécu en dormant avec, mais c'est pas grave.
Bon,
mais
il lui arrive en plus de dormir avec, très franchement.
Non, je pense que il y a pas d'intérêt, mais et passer 24 heures avec le casque sur la tête, ça a pas d'intérêt en soi, sauf justement pour tester, pour voir si c'est de l'expérimentation, et c'est ça que j'aime bien dans ce genre de vidéo. Et je pense que justement, il parle pas beaucoup de son sommeil avec, parce que finalement, il avait peut-être rien à dire. Cela dit, il y a un développeur qui fait une appli qui s'appelle Dark Noise pour faire du bruit de fond. Qui s'appelle Chapman et qui a essayé de sortir, qui a réussi, il me semble, dès le début. Il a une autre application qui s'appelle Spatial Noise, donc pour faire du bruit de fond, pour rester concentré, par exemple. Et quand on travaille sur avec le Vision Pro, peut-être qu'une telle application est intéressante. Du coup, c'est aussi pour dormir, pourquoi pas. Justement, il y en a qui, tu sais, pour soit s'aider à s'endormir ou se mettre dans un état, en tout cas, pour bien dormir. Donc peut-être que ça vaut le coup, j'en sais rien. Finalement, on n'en sait rien. C'est un peu lourd, naturellement, c'est pas forcément super confortable. Mais c'est ce que j'aime bien là-dedans, c'est l'expérimentation. Dans cette vidéo-là, celle de Luc Miani, donc il se balade dans la rue avec. Alors là aussi, c'est stupide. Sauf que ça montre aussi la persistance des fenêtres, parce qu'il laisse des fenêtres chez lui et il sort dans la rue et puis il revient, les fenêtres sont toujours là. C'est rigolo parce que justement il y a un côté qui montre à quoi ça peut servir. C'est vraiment de outre moi, le mot qui m'est venu, c'est il y a l'informatique spatiale et l'informatique environnementale. C'est-à-dire que tu te crées ton environnement ou tes environnements et qui restent en place et tu te balades avec. Et donc c'est là où on revient sur la thématique des solutions, enfin aujourd'hui avec plutôt les techniques d'aujourd'hui, mais avec des solutions pour demain, pour dans 5 ans. C'est-à-dire qu'une fois que tu as, au lieu d'un masque qui ressemble à un masque de ski, des lunettes comme celles que je porte, ça prend encore plus de sens. Et ce genre de vidéo démontre un peu ça. Ça a l'air con aujourd'hui, il marche dans la rue, c'est stupide. Mais voilà. Et il y a un dernier YouTuber qui s'appelle Casey Neistat, qui a un peu fait la même chose. Et qui se balade notamment dans...
qui est un peu fêlé, on va dire. Hein.
Ouais, il est fêlé, mais il est donc dans Times Square à New York. Et pour lui, il a une réalisation là parce que il a ses fenêtres en étant assis sur un banc dehors, etc. Mais ça montre, je trouve que c'est une vraie vision de ce que ça peut être dans le futur, de ce à quoi ça peut servir. Donc c'est pour ça que je trouve ces vidéos intéressantes aussi.
Ouais. Bon, en tout cas, on a eu droit à une vraie surenchère hein, de situations cocasses, pour ne pas dire dans certains cas ridicules, dangereuses, hein, parce que on a vu des confrères ou des clients porter le Vision Pro dans le métro, en traversant la rue, au café, dans l'avion et même au volant d'un Cybertruck Tesla. Ce qui est fortement déconseillé, je crois, dans n'importe quelle voiture de toute façon. Justement, à propos de ces porteurs du Vision Pro qui se sont fait filmer en train de marcher dans la rue, de se déplacer, Numérama dit qu'en fait, c'est juste des vidéos à clics parce que Vision OS, dans sa première version, ne permet pas d'utiliser des applications en se déplaçant. Comme tu le disais,
c'est pas
les fenêtres,
tout à fait vrai.
Mais les fenêtres, elles sont fixées à un endroit. Donc si on avance, on laisse son environnement derrière soi.
Alors oui, mais alors donc il y a les exemples dans les vidéos que j'ai citées tout à l'heure, effectivement, où t'es dans le train, dans le métro, tu ouvres une fenêtre, le métro part et donc tu traverses la fenêtre parce que la fenêtre part avec. Et suit le mouvement. Sauf que
c'est ça.
Ils ont oublié un truc, il me semble, et Apple en a parlé. Il y a, il faut faire une différence entre le airplane mode et le plane mode, donc le mode avion, mais pas dans le sens où qui coupe toutes les connexions sans fil, mais c'est justement en fait un mode mouvement. Et je pense qu'ils ont oublié ce mode-là. Et c'est-à-dire que quand tu actives ce mode mouvement, à ce moment-là, tu indiques à ton Vision Pro que tu es dans un environnement qui bouge. Et le positionnement des fenêtres, du coup, n'est plus le même. Les fenêtres restent devant toi en suivant le mouvement. Donc c'est prévu, en fait. C'est ça le mode avion dont Apple a déjà parlé à la WWDC. C'est que même si tu es à 800 km à l'heure, tu peux l'utiliser pour regarder un film devant toi sans que ça bouge. Et je pense que tous ces gens-là, ils ont un petit peu oublié ce mode-là, en fait. Donc c'est possible.
Alors parmi les fonctions vraiment innovantes du Vision Pro, il y a le visionnage des fameuses vidéos spatialisées. Donc on peut déjà tourner avec son iPhone 15 Pro ou Pro Max. Et là, il y a une sorte d'unanimité autour du côté waouh de ces vidéos. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis tombé il y a quelques heures sur le tweet d'un Américain qui explique comment il a transformé des vidéos standards en vidéos spatialisées avec apparemment la même, enfin, le même rendu ou la même émotion au visionnage. Gilles, est-ce que tu penses que ça peut devenir l'une des killer apps, justement, cette possibilité de visualiser des vidéos, notamment des vidéos où on voit très bien le truc, hein, les enfants quand ils étaient petits, les grands-parents avant qu'ils disparaissent,
oui,
tout ce genre de choses.
C'est la base même de la captation d'images, qu'elle soit mobile ou qu'elle bouge avec sous forme de film. Je sais plus si c'était Kodak avait fait un sondage sur les photos qui étaient développées chez eux et je crois que c'était 80% représentaient des humains. Donc on est au cœur de la photo familiale, hein, Donc, on est au cœur du cœur de ce qui pourrait être une application et un compagnonnage au jour le jour ou pour les grandes occasions d'un usage familial, personnel, sachant que si en plus il y a une. Là aussi, on est au cœur de la philosophie d'Apple, d'une galaxie d'objets qui se répondent les uns les autres. L'iPhone a vocation à être dans la poche de la plupart des gens, puisque avec le matériel de d'occasion, le reconditionner, les choses qui passent de main en main dans la famille. On a une base installée qui est de plus en plus importante. On fait des vidéos avec son iPhone qui monte en capacité de plus en plus au fur et à mesure des versions. On est sur une stratégie à 10 ans. Donc, ces vidéos-là qui sont capturées avec l'iPhone ont vocation à se retrouver sur des visions Pro ou des visions R, pourquoi pas. Avec des lunettes au lieu d'avoir un casque. Et à ce moment-là, on a une boucle vertueuse contre laquelle la Commission européenne sortira peut-être une législation, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui...
Il y a une cohérence, c'est ça que tu veux dire.
Oui, c'est cohérent, c'est habituel de la stratégie d'Apple, c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence par rapport aux autres compétiteurs, sachant que Samsung ou Google réagiront très vite et proposeront quelque chose de cet ordre si jamais ils doivent sortir un casque à réalité mixte, eux aussi.
Alors, beaucoup de ceux qui ont acheté un Vision Pro depuis 8 jours ont testé FaceTime dans le Vision Pro. Et vous savez que quand on utilise FaceTime avec un Vision Pro, en fait, on existe sous la forme d'un avatar qu'Apple appelle un persona. Alors, je crois que ceux qui ont testé FaceTime dans l'ensemble ont été assez impressionnés par l'usage. En revanche, il y a encore du progrès à faire sur les personas de la vie de tous. On en est à la version 1.02, si je ne me trompe pas, de Vision OS. Apple est en train de tester la 1.1 qui devrait arriver en mars, en même temps qu'iOS 17.4. Et justement, l'amélioration du rendu des avatars, c'est l'un des points clés de cette mise à jour 1.1 qui est en préparation. Apple se fait un petit peu moquer, hein, Fabrice, sur l'apparence de ses avatars.
Alors oui, on se moque d'eux et en même temps, j'ai l'impression d'avoir entendu tous les testeurs dire aussi quelque chose qui est, c'est quand même incroyable parce que la rapidité avec laquelle on peut créer la fameuse persona. C'est-à-dire que
Ouais.
la mise en place, donc pour la créer, on enlève le casque, on le retourne pour qu'il soit face à soi, et ensuite il y a une petite procédure qui est regarder, tourner la tête à gauche, tourner la tête à
Oui,
droite,
un peu à
monter,
la Face
descendre,
ID, quoi.
voilà, exactement. Puis il faut donner deux, trois expressions du visage. Alors on sourit la bouche fermée, on sourit la bouche en montrant les dents, on ferme les yeux, on lève les sourcils. Et puis ensuite on laisse le casque mouliner un peu, mais ça mouline qu'une minute. Une minute ou deux, et hop, on a une représentation 3D de son visage. Donc ça, c'est quand même une performance que je trouve assez balèze. J'ai vu
Carrément.
une démonstration de la 1.1 bêta que tu évoquais tout à l'heure, et les détails de la représentation évoluent déjà beaucoup dans le bon sens. Donc ça, je trouve qu'ils en ont sous la pédale. Visiblement, ils ont de quoi faire. Et puis, j'ai entendu un autre gars, un type qui s'appelle Micah Sargent, qui est notamment sur le réseau Twit de podcast, qui a dit un truc. Oui, ça fait bizarre. On était donc il a fait une visio avec trois ou quatre autres, peut-être trois autres, je sais plus. Je crois qu'il y a une limite à quatre, hein. Je sais plus exactement. Bon, on était tous dans le Vision Pro et donc tous avec les personas. Donc au bout de pendant quelques minutes, c'est oh là là, t'as l'air bizarre, etc. Et puis il raconte qu'au bout d'un quart d'heure, il a oublié et qu'ils ont commencé à jouer aux cartes. En étant en FaceTime, etc. Et qu'ils se sont aperçus au bout d'une demi-heure qu'ils avaient oublié que c'était des personas. Donc, ils forcent peut-être un peu le trait, et puis c'est des gens qui sont tous habitués à faire, des tests de nouveaux produits, etc. Mais tout de même, moi je me rappelle, pour faire un parallèle, toutes les nouvelles technologies, c'est souvent comme ça. Pardon, je vais encore revenir à des trucs qui ont 20 ans ou 25 ans, mais les premières personnes qui avaient des appareils photo numériques et qui prenaient des photos sans regarder dans le viseur, on les prenait tous pour des gens bizarres. Et puis ensuite, maintenant, on fait tout ça, tu vois. Donc, on s'habitue à tout un tas de trucs. L'écouteur que t'as dans l'oreille, t'as un AirPod Pro dans l'oreille. Quand c'est sorti, oh, c'est bizarre. Y a pas de fil, ça ressemble à rien, etc. Puis maintenant, on est habitué. Donc, faut pas non plus perdre ça de vue que bah c'est nouveau, ça fait bizarre, et puis après, ça marche.
Alors on regarde tout ça depuis la France, un peu jaloux quand même, ne le cachons pas, jaloux de ceux qui peuvent se procurer un Vision Pro, de ceux qui en ont les moyens aussi. Mmh. Et on attendait beaucoup de Tim Cook quelques heures avant ce lancement officiel, puisqu'il participait à l'annonce des résultats trimestriels d'Apple, et le CEO de Cupertino a confirmé que le Vision Pro passerait bien les frontières américaines dans le courant de l'année. On va le réécouter, c'était il y a 9 jours, donc la veille de ce lancement officiel.
We are announcing these results on the eve of what is sure to be an historic day as we enter the era of spatial computing. Starting tomorrow, Apple Vision Pro, the most advanced personal electronics device ever, will be available in Apple stores for customers in the US with expansion to other countries later this year.
Bon, est-ce qu'on est plus avancé pour autant, mes amis, sur une sortie en France du Vision Pro?
Il y a eu des éléments qui sont sortis, alors j'y crois. Moyen, une sortie d'ici le mois de mai en Chine continentale. Vu la taille du marché, est-ce que ils auraient les rêves assez solides pour fournir ce marché en plus du marché américain? Marc Gurman avait parlé du Canada, du Royaume-Uni d'ici à la toute fin de l'année pour Noël. Ça va dépendre de la réponse du marché américain et de la capacité des chaînes de production à monter en puissance sur un produit extrêmement complexe. On va en reparler tout à l'heure. Alors, je vais encore moi aussi parler de quelque chose que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est l'iPod mini, qui avait eu un mois ou deux de décalage sur un lancement international après les États-Unis du fait de la réponse inattendue du marché américain, qui fait qu'ils avaient préféré servir ce marché-là avant de réentamer une promotion et un cycle de vente depuis le début. En attendant que les lignes de production aient monté encore davantage. Donc, en même temps, je vois mal le Royaume-Uni avant la France et l'Allemagne au moins.
Pourquoi donc ?
Pourquoi donc ? Oui. Au contraire.
Marché anglophone, c'est déjà la même langue.
C'est anglophone, ils n'ont pas du tout du coup les restrictions de l'Union européenne justement sur tous les App Store et etc. qui va toucher qui peut potentiellement toucher le Vision Pro aujourd'hui. Pour l'instant, c'est que l'iPhone, mais visible. Enfin, forcément, ils font attention, quoi.
Pour moi, c'est une affaire de négociation de droits, voisins et de droits audiovisuels par rapport au contenu qui vont être présentés. C'est une nouvelle plateforme.
Bah, raison de plus, hein.
Donc, il faut renégocier.
Et la chronologie des médias en France, c'est quand même, hein, c'est quand même assez contraignant. Hein.
Oui, mais c'est celle de la de Apple TV+. Il n'y a pas de, il y a pas de souci. Ils font ça déjà, donc il y a pas de. C'est juste un truc de négociation avec les organisations représentatives des différents collèges, et puis la négociation éventuelle de remboursement sur les verres, parce que il faudra vraisemblablement passer par là, sachant qu'il y a une part de plus en plus importante de la population.
C'est plaisant, il n'y a pas une mutuelle qui remboursera des verres à mettre dans le Vision Pro. Hein.
Il remboursera il y aura des
On l'aura dans 5 ans, sinon.
Je prends le pari. Ça passera pour celles qui veulent se démarquer. Et de toute façon, il y a.
Mais ils ne vont pas attendre ça pour lancer le Vision Pro.
Non, ils ne vont pas attendre. Et puis, t'achèteras tes verres.
C'est déjà le cas aux États-Unis. Un certain nombre de caisses, de sociétés d'assurance, remboursent tout ou partiellement.
Mais tu payes $2,500 par mois, Gilles, donc c'est pas pareil pour ta mutuelle.
On verra.
Bon, je suis pas d'accord avec toi pour deux autres raisons. D'abord, c'est le siège d'Apple Europe, Londres. Et puis, je te rappelle qu'il y avait il y a un lab Vision Pro à Londres et il n'y en a pas à Paris. Donc,
Il y en a un à Cologne ou
il y en a en Berlin, Allemagne.
Je sais plus.
À Munich, ouais. Mais il n'y en a Munich. Pas plus à Paris. Donc, et d'ailleurs, on cite aussi l'Allemagne comme un des pays où le Vision Pro pourrait arriver là, dans la phase 2. Donc, tout ça n'est pas si évident. Tiens, à propos de l'Allemagne, est-ce que vous êtes au courant que 8 passagers ont été interceptés à l'aéroport de Berlin après avoir essayé de passer un Vision Pro dans leur valise sans payer les frais de douane? Eh oui, ils ont essayé. Ils ont perdu. Et ça veut dire...
Est-ce qu'on connaît justement le prix de la douane, en plus de la potentielle amende? Mais du coup, ça peut donner une idée du prix du casque quand il arrivera en Europe, parce que...
Alors, il faut d'abord ajouter la TVA, donc c'est 19% c'est en Allemagne.
Et 20%
chez... Et après, il faut ajouter les frais de douane qui, en général, sont de 10-12%. Donc, un petit 30%, là, ça fait sur un casque à 4000, ça fait, ça fait $1,300 en euros.
Donc, on s'achemine quand même doucement vers une première version de Vision Pro, quand elle arrivera en France, à 4 500 euros quand même. Hein, faut pas se tromper. Hein.
Bah oui.
voilà. C'est tout le monde, enfin souvent on oublie hein, quand même, et donc c'est $3,500, c'est pas ça. Hein.
Bon, en tout cas, lors de l'annonce des résultats, donc le 1er février au soir, Tim Cook a redit à quel point ce lancement était majeur et historique. Et oui, c'est le début d'une nouvelle ère, on réécoute Tim Cook.
Apple Vision Pro is a revolutionary device, built on decades of Apple innovation, and it's years ahead of anything else. Apple Vision Pro has a groundbreaking new input system and thousands of innovations, and it will unlock incredible experiences for users and developers that are simply not possible on any other device. There's already so much excitement behind this product from reviewers, customers, and developers. They are praising everything from the incredible experience of watching a movie on a 100-foot screen to remarkable new machine learning capabilities like hand tracking and rune mapping. We can't wait for people to experience the magic for themselves. Moments like these are what we live for at Apple. They are why we do what we do. They're why we're so unflinchingly dedicated to groundbreaking innovation and why we're so focused on pushing technology to its limits as we work to enrich the lives of our users.
Bon, il en a remis 3 couches, hein, Tim Cook, le 1er février, dès l'ouverture de son propos, et puis après, il a évidemment été interrogé plusieurs fois sur le Vision Pro. Est-ce qu'il en fait pas un peu trop, finalement, pour ce produit dont le succès n'est pas du tout garanti, en tout cas au-delà du cercle des ultra-geeks, qui ont, pour beaucoup, déjà déboursé $4,000 pour se l'offrir?
Là encore, je trouve qu'il y a un parallèle avec l'iPhone. Quand Jobs a lancé l'iPhone en disant « bon, c'est nouveau », alors il était aussi hyperbolique comme il l'était d'habitude, en disant « mais bon, si on arrive à attraper 1% du marché des smartphones ou des téléphones en général, on sera content ». On connaît la suite, c'est-à-dire que en gros, c'est l'iPhone d'abord et puis les autres ensuite. Donc, c'est normal qu'il y croit. En même temps, on peut souligner que Tim Cook, il parle de la réalité augmentée depuis des années, c'est-à-dire en disant que c'était une chose à laquelle il croyait. Je pense pas qu'on puisse le taxer d'un faux enthousiasme, en tout cas. Après, on verra bien. On verra bien comment c'est, si c'est un résultat, un succès commercial ou pas. Mais comme depuis, donc notamment le début des tests, des reviews qu'on a commenté, tout le monde a l'air de dire la technologie n'est pas encore au niveau de la promesse et de ce que ça prévoit de pouvoir faire. Je comprends assez son engouement, et puis c'est probablement pour lui quelque chose de très important en termes de ce qu'il va laisser à Apple. Mmh. Tout le monde le dit aussi, hein, que c'est vraiment le premier potentiel vraiment très très nouveau produit qui aura été lancé sous son entre guillemets règne. Donc je pense que c'est aussi quelque chose d'important pour lui. On sait que d'ici 5 ans, il aura quitté les rênes d'Apple et il a vraiment envie que ça soit quelque chose, quoi.
Ouais, c'est un sacré pari, hein, en tout cas. Pari sur lequel Jim Muster est assez optimiste, puisqu'il prédit un business comparable à celui de l'iPad dans les 10 prochaines années pour Apple, et donc environ 10% du chiffre d'affaires, ce qui serait pas mal, Gilles.
Oui. Alors, le truc de l'analyse, c'est que il fait passer pour de l'analyse souvent des informations qu'il a off the record en interne. Donc, il n'a peut-être pas fait ça non plus au doigt mouillé. Ça doit être les chiffres qui sont dans les cartons chez Apple. C'est comme ça que je le ressens. Ça lui a coûté son boulot. Alors, je me souviens plus de la boîte dans laquelle il bossait. Il a trop cru des sources internes qu'il avait à propos de l'Apple TV, on s'en souvient, la vraie Apple TV avec
la télé,
écran.
La télé Apple, ouais.
La télé Apple, et quand le projet qui était pas mal avancé, apparemment, a été mis au placard, il s'est retrouvé au milieu du guet, tout bouillé, et sans rien pour se couvrir, quoi.
Ouais. Bon, en tout cas, le Vision Pro, c'est un produit qui ouvre une nouvelle période. On se doute qu'on verra un modèle 2, un modèle 3, peut-être le début d'une gamme avec, tu le disais, un Vision Air, Gilles, ou un Vision Ultra, ou un Vision...
un Vision Studio, donc.
Un Vision Studio, pour te faire plaisir, Fabrice.
Merci bien.
Vous trouverez sur les réseaux ce rendu vidéo d'un Vision Pro qui sortirait autour de 2030. Alors, il est nettement plus fin et nettement plus effilé. On retrouve le même effet irisé sur l'écran avant. Et voilà, la perspective, le rêve d'un prix à $999 dans 5-6 ans. Est-ce que vous y croyez?
Ça y ressemblera peut-être vaguement. Alors, je pensais qu'il fallait plutôt comparer l'Apple Vision Pro au Macintosh, le premier, mais cette réflexion sur les technologies et les usages de demain, c'est plutôt au Macintosh portable qu'il faudrait le comparer avec... cet écran tout petit, ces idées géniales de trackball sur le côté qu'on peut mettre à droite à gauche, et puis ces batteries extrêmement lourdes avec une autonomie ridicule, c'est peut-être à ce genre de précurseur qu'il faudrait le comparer, et donc l'évolution qui est proposée là avec ce design beaucoup plus léger, effectivement, c'est dans l'ordre des choses si les composants arrivent à s'améliorer, à s'affiner suffisamment. Si c'est pas dans 10 ans, ça sera dans 15 ou dans 20 ans.
Ouais. Fabrice, c'est marrant parce que moi, je pensais au Vision Pro comme successeur potentiel du Mac. Et en fait, beaucoup de ceux qui l'ont essayé et acheté depuis 8 jours disent qu'en fait, ça remplace complètement un iPad.
Bah, d'après ce qu'on sait, c'est quand même finalement un iPad sur la tête, parce que c'est le Vision OS est quand même très proche d'iPad OS. On voit bien, il y a quelques indices, c'est-à-dire que quand tu utilises un trackpad avec Vision OS, le pointeur c'est un petit rond par exemple, comme il y a sur un iPad. À partir du moment où le développeur a laissé cocher la case compatibilité, c'est pour ça qu'il y a déjà 1 million d'apps en fait sur le Vision Pro, c'est les applications iPad qui fonctionnent sans modification finalement. Donc c'est un iPad sur la tête, donc c'est plutôt effectivement ça que ça remplace. On a souvent dit que l'iPad, je pense que c'est très juste, hein, est avant tout un appareil de consommation plutôt que de production. C'est-à-dire que on est bien à l'aise dans son canapé, c'est agréable d'aller regarder des pages web, voire de regarder des films. Voilà, effectivement, je pense que c'est très proche de ça, bien sûr.
Je crois que Non, le parallèle qui est fait, c'est une question d'interface. Le Mac, l'ordinateur, se fait, la communication, l'interface se fait grâce à une souris et un pointeur qui est quelque chose d'intermédiation. Un peu comme les pinces pour personnes âgées qui vont permettre de récupérer quelque chose par terre sans se pencher, ou alors les manipulations d'objets radioactifs dans une centrale. Il y a un intermédiaire entre la main et la tâche qu'on est en train d'effectuer. Dans le cas de l'iPad, dans le cas de l'iPhone, dans le cas maintenant du Vision Pro, ce sont les mains, ce sont les doigts qui permettent d'interagir avec les objets informatiques que l'on va utiliser, soit pour regarder, pour consommer, comme tu dis, j'aime pas ce mot, mais on va l'utiliser, soit pour produire, pour dessiner, pour interagir avec un... Il y a un gars qui a fait du montage en reproduisant son écran d'ordinateur dans le Vision Pro. Il a fait du montage avec Final Cut Pro, c'est The High Collection. Et donc, c'est cette interface gestuelle qui fait abstraction de la souris, qui est beaucoup plus directe, qui est beaucoup plus emprise avec les objets qu'on manipule, qui force ce parallèle. Mais je pense que la puissance du Vision Pro elle est bien supérieure à ce que l'iPad peut proposer.
Alors, qui dit sortie d'un nouveau produit Apple dit aussi démontage, désossage méticuleux par iFixit, qui arrive à deux conclusions. La première, c'est que le Vision Pro est un enfer à démonter et donc à réparer, d'où le prix faramineux de la réparation qui équivaut sans doute pour Apple au remplacement pur et simple du masque. L'autre conclusion, elle va de pair avec la première, hein, c'est quand même que c'est une merveille d'ingénierie. Avec Fabrice, une concentration exceptionnelle de composants et de technologies.
C'est complètement fou de voir ce qu'il y a dedans, effectivement.
Il n'est pas si gros quand on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur, finalement.
Non. Alors voilà. Alors il y a une réflexion aussi qui vient. On se dit c'est quand même bizarre qu'ils aient pas réussi à mettre une caméra Face ID sur les Mac quand on voit le nombre de capteurs qu'il y a sur le sur le Vision Pro. Ils pourraient le faire quoi. Voilà. ça c'est quand même dommage. En termes de réparabilité, donc on voit que c'est très beau, mais c'est donc un proto. C'est pas réparable du tout. C'est ce qu'on voit aussi que pour les tarifs de réparation qui sont demandés si on casse l'écran qui est devant ou des choses comme ça, on voit bien que ça peut pas être un produit final tellement c'est compliqué, effectivement, complexe à produire, à réparer, et donc ça peut pas être diffusé à des centaines de millions d'exemplaires dans cet état-là. Il y a une autre vidéo qu'on peut regarder qui est celle de Zach Nelson, c'est Jerry Rig Everything, qui l'a démonté aussi. aussi, qui fait aussi comme d'habitude ces tests de durabilité et de dureté des matériaux. Et on voit que l'écran externe est assez mou en fait, donc il peut y avoir facilement des rayures, y compris au niveau des caméras extérieures qui peuvent peut-être à un moment gêner la vision. Donc il faut absolument faire très 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 attention et très précautionneux quand on utilise son Vision Pro. Et il montre aussi, pareil, il l'a démonté. Alors là, pour le coup, en le cassant totalement pour montrer ce qu'il y avait dedans. Donc c'est vraiment, je trouve, là où c'est une démonstration de qu'on voit que c'est pas un produit fini. Ça ne peut pas être un produit final en l'état, c'est évident.
Ouais. C'est peut-être un sujet d'article pour comment ça marche.
Quand ça arrivera en France, on verra ça.
Ouais, bonne idée, Gilles. Bon, voilà tout ce qu'on pouvait dire à J+8 sur le Vision Pro. Vous avez peut-être suivi cette sortie via iWeek Express, notre nouveau podcast en mode breaking news. Bah, je vous rappelle que c'est le tout premier podcast indépendant d'information sur l'écosystème Apple à la parution imprévisible, n'est-ce pas Fabrice ? Une parution qui est déclenchée par l'actualité. En gros, dès qu'une info de dernière minute d'importance nous arrive, eh bien on enregistre et on diffuse un nouvel épisode avec deux priorités, du recul même à chaud et la plus grande réactivité possible. Puisque chaque épisode est imprévisible, eh bien, d'autant plus important de vous abonner. C'est très simple, hein, c'est sur toutes les plateformes de podcast, vous cherchez iWeek Express et en plus c'est gratuit. On passe au dossier de la semaine, à notre deuxième grand sujet. On va parler enfin, allez-vous dire, Mac et iPad, en se posant ces deux questions, lesquelles et quand. Marc Gurman, qui ne parlait plus que du Vision Pro depuis la fin de l'année dernière, s'intéresse à nouveau au Mac et aux iPads parce que, selon lui, la production de masse est en cours pour les nouveaux modèles qui seraient annoncés dans le courant du mois de mars et qui seraient disponibles peut-être avant la fin du mois de mars. Alors, on parle notamment du MacBook Air M3 13 pouces et des premiers iPad Pro à écran OLED qui seraient en plus équipés d'un processeur M3. Des iPad qui vont faire envie, mais qui s'annoncent probablement très très chers, n'est-ce pas Fabrice ?
Ah oui, c'est iPad ultra cher, effectivement. Ça va être...
Potentiel... Nouveau nom ?
Non, c'était pour faire une blague stupide sur le fait que ce sera ultra cher. Parce que
comme idée, hein.
Bah, peut-être que du coup, il pourrait se le rendre. Le fait que d'appeler ça ultra, ça justifiera avec toutes les guillemets qui vont avec le fait que le prix augmente. Enfin, tu mets un M3 et un écran OLED qu'on connaît, qu'on sait cher. Alors on arrivera à mon iPad Studio avec aussi un plus grand écran et des choses comme ça. Ça va. Je sais pas. C'est bizarre. Enfin. Ça peut faire vraiment un produit tellement cher qu'il va falloir, pour contrebalancer ça, un iPad Air qui soit beaucoup plus abordable, et c'est peut-être pour ça qu'on arrivera aussi à un iPad Air avec un écran 13 pouces pour contrebalancer, avec un écran LCD du coup classique, pour contrebalancer une potentielle hausse de prix des iPad Pro qui pourrait atteindre de nouveaux sommets en tout cas.
Ouais. Gilles, on parle beaucoup de ces nouveaux iPad Pro OLED M3, mais on sait qu'Apple doit renouveler toute la gamme en fait, et on se dirige potentiellement vers la plus grosse annonce iPad depuis que l'iPad existe. Est-ce que tu penses que toutes les annonces arriveraient le même jour lors d'une même keynote ?
Oui, je me suis fait la réflexion en regardant un peu les liens. Je voyais bien une keynote mobilité avec le renouvellement de l'ensemble de la gamme iPad. Marc Gurman avait évoqué cette possibilité, et en même temps...
Oui, parce qu'en général, ça se fait en deux fois. Hein. Oui, les iPad Pro sont annoncés à part en général.
Il y a une segmentation justement pour... séparer la mince et la classe, comme disent les anglo-saxons. Et donc, là, il y aurait quelque chose de l'ordre de la mobilité, puisque Gurman annonce également le renouvellement du MacBook Air en M3 pour la même date. Donc ça pourrait faire une unité au moins de façade, sachant que l'iPad Air lui aussi se verrait rafraîchir sérieusement avec un écran plus grand. Vous en avez évoqué la possibilité tout à l'heure.
Ouais, Fabrice, ça n'est jamais arrivé qu'Apple renouvelle toute la gamme iPad le même jour. Est-ce que ça ne devient pas une nécessité finalement pour avoir une cohérence de gamme?
J'allais évoquer ça effectivement parce que là ça commence à faire un certain nombre de mois que les iPad Pro notamment sont en retard, enfin en tout cas par rapport à l'habitude qu'on a de sortie. On avait vu justement aux annonces à la conférence financière là, des résultats financiers d'Apple, la gamme iPad a pris un petit coup parce que justement il n'y a pas de nouveautés.
-25%, ouais, t'as raison.
-25%, donc c'est un petit coup quand même sur la tête, donc potentiellement lié au fait qu'il n'y ait pas eu de renouvellement, donc ils ont effectivement besoin. Je me dis aussi que ils vont avoir besoin de compacter un peu leurs annonces parce que la gamme des produits Apple s'étend. Donc il y a un moment, il y a plus tellement de temps dans l'année pour faire des annonces. Tu rajoutes le Vision Pro maintenant, donc ça veut dire que potentiellement tous les ans il va aussi y avoir un nouveau Vision Pro, Air, tout ce que vous voulez. Donc il y a iPhone, iPad, Vision, Mac de bureau, Mac portable, iPad. Il y a plein de produits. La gamme d'Apple est tellement étendue maintenant qu'il faut. Tu fais les iPads, tu les fais tous d'un seul coup. Éventuellement, mais avec les MacBook Air parce que ça ressemble un peu en termes de produits mobiles. Enfin, il y a voilà. Et puisque pour rebondir sur ce que tu disais, donc il y a des Mac à processeur M3. Il y en a déjà. Il y a les MacBook Pro et ça commence à faire un certain nombre de mois qu'ils sont sortis. Et pas les autres. Donc, ça, souvent, on s'est fait la réflexion que, qu'est-ce qui sort d'abord, le M3 grand public ou le M3 Pro, ou est-ce qu'on ne comprend plus grand-chose et ça devient compliqué à suivre. Donc, je pense qu'il y a matière à réagréger des annonces pour que ce soit plus cohérent, effectivement.
Ouais. Il y a un souci avec les puces. Il faut qu'elles sont de la même famille. Elles ont la même racine, mais elles sont différentes et il faut les faire fabriquer. Et les lignes de production chez TSMC ne sont pas extensibles. Pour revenir à ton truc de cohérence et de regroupement des annonces, Ellie, qu'on embrasse, te dirait que pour l'Apple TV, ça laisse un petit peu. Enfin, les renouvellements d'Apple TV laissent un petit peu de place pour le reste de la gamme. Bon, c'est de l'humour. Par contre, vous oubliez votre petit chéri, là, votre souffre-douleur préféré, c'est l'iPad tout court. Lui aussi, il a vocation à revenir dans la cohérence de la gamme avec du vrai USB-C, un vrai emplacement pour l'Apple Pencil, et puis enfin, la possibilité de lui voir adjoindre un processeur M et avoir quelque chose de un peu conséquent à présenter sur le marché de l'éducation.
Ouais, j'ai l'impression qu'Apple s'est planté avec la dernière génération d'iPad. J'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment attiré les foules. Seul avantage, c'est d'être le moins cher de tous, mais...
Mais trop cher pour ce qu'il est. Enfin, l'iPad
trop 10 cher pour ce qu'il est.
Moi notamment, on s'est fait l'écho du fait que c'était raté, effectivement. Mais c'est intéressant ce que dit Gilles. Je pense qu'un iPad d'entrée de gamme, mais qui soit à processeur M, pourquoi pas un M1 d'ailleurs, ça irait très bien. S'ils en ont encore en stock, je ne sais pas si c'est encore fabriqué, mais ça permettrait d'avoir du coup un vrai boost de puissance et de longévité sur un appareil qui serait plus abordable. Ça serait, en termes de cohérence de gamme, je comprendrais ça assez bien. Ouais.
Alors, les dernières annonces Mac, elles datent de la fin octobre, donc C'est récent, c'était l'annonce des processeurs M3, M3 Pro, M3 Max. On a découvert les nouveaux MacBook Pro. Voilà, avant ça, on avait eu droit effectivement au rafraîchissement tant attendu de l'iMac M3. Et le MacBook Air M2 était pas si loin avant ça. Si Apple renouvelle le MacBook Air en M3 la courant mars, c'est parce que c'est le Mac le plus vendu et qui doit rester, entre guillemets, à la corde, Fabrice ?
Alors, on a l'impression aussi qu'ils ont attendu un petit peu, parce que on avait parlé de ça, ils ont sorti le MacBook Air 15 pouces M2, mais plus tard que le MacBook Air traditionnel 13 pouces. Et donc, on s'attendait, alors bien sûr, à la sortie, on était étonné du fait qu'il n'y ait pas de MacBook Air M3 encore, alors que l'iMac M3 est sorti, mais potentiellement pour laisser un peu de temps sur le marché au MacBook Air 15 pouces, pour éviter qu'il y ait des gens qui l'aient acheté, et puis que deux mois après, il y en ait un nouveau. Maintenant, je pense que la période acceptable est passée, donc on peut passer toute la gamme au M3, c'est-à-dire 13 et 15 pouces, et on oublie cette sortie un petit peu étagée avec le MacBook Air 15 pouces,
ben
et
oui.
Puis maintenant on pourra repartir sur quelque chose de, là encore, de cohérent. La gamme d'Apple a vraiment un besoin de cohérence là.
Ah ouais, je suis tellement d'accord.
À force de sortir des modèles différents, c'est vraiment un effet de bord, je trouve, des nouveaux processeurs M, c'est-à-dire qu'il y en a tellement de versions et qui sortent de manière étagée que c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Hein.
Ouais, mais justement, Gilles, est-ce que Apple devrait pas faire, si ça se confirme, pareil pour le Mac que pour l'iPad, c'est-à-dire prévoir un événement au cours duquel, avec une même génération de processeurs, ils annoncent toute la famille?
À ce moment-là, ça serait par plateforme, avec depuis le MacBook Air jusqu'au MacBook Pro, et puis les Mac.
Ben oui, pourquoi
les
pas
de non portable et les desktop, depuis l'iMac jusqu'au Mac Studio et au Mac Pro, ce qui, du point de vue de la structuration de la gamme, serait une rupture, puisque Apple raisonne en marché grand public et éducation, et puis marché pro. Donc, on est sur le fameux cadran qui date de 98 sur les marchés. Donc, on avait portable.
Mais oui, mais
et
un instant T, Gilles, la gamme, elle est vraiment devenue difficile à.
Elle est difficile à suivre. Oui.
À comparer, parce que entre le modèle annoncé il y a 15 jours et celui annoncé il y a presque un an.
Je pense qu'il y a des problématiques industrielles. Ce qu'on disait sur la gamme M, c'est difficile d'avoir en quantité suffisante autant de processeurs qu'il en faudrait pour satisfaire la fabrication de toute une gamme. Puis il y a aussi les ressources humaines qui sont disponibles chez Apple pour concevoir et mettre au point et vérifier les puces qui sont de nature différente. Fred Crassin nous en parlerait avec pertinence. C'est pas évident, c'est pas parce que c'est du M que c'est exactement la même chose. Il y a des problématiques différentes en fonction du nombre de cœurs, la puissance qui est développée, la chaleur qui est dégagé, et donc ça demande beaucoup beaucoup de travail, d'autant qu'il y a un turnover assez important. On en parlera peut-être avec des ingénieurs qui rentrent, mais aussi pas mal d'ingénieurs qui sortent.
Fabrice, si on s'y dirige, Apple ne renouvelle pas toute la gamme Mac courant mars, mais seulement le MacBook Air avec l'arrivée du modèle M3, comment tu vois le reste de l'année, sachant que les MacBook Pro ont changé fin octobre, et on sait qu'on a encore le Mac Studio qui attendent de passer au M3. On a toujours l'espoir d'un iMac à plus grand écran, potentiellement plus puissant que le simple modèle M3. Il y a toujours le Mac Pro.
Et il me semble qu'Apple a été très clair sur le plus grand iMac qui n'existera pas. Moi, ça, j'y crois plus du tout. Je pense que le marché de l'iMac,
en fait... Tu as enterré l'idée d'un
gros... Ouais, j'ai enterré cette idée-là. Ouais, parce que on dirait que l'iMac lui-même, en fait, l'idée de l'iMac du tout-en-un est en train de disparaître petit à petit. C'est-à-dire que entre le premier iMac de 97-98 et aujourd'hui, il s'est passé quand même, entre guillemets, la révolution des portables. C'est-à-dire que les machines les plus vendues sont des portables, c'est pas des machines de bureau. Donc ça devient moins intéressant pour vendre ça. Donc moi je crois pas du tout l'iMac Pro qu'on a eu pendant quelques temps, c'était vraiment semble-t-il, on peut peut-être l'analyser comme ça à posteriori, c'était un bouche-trou, c'est-à-dire que le Mac Pro précédent s'étant planté, il fallait une machine Pro avec des Xeon dedans à l'époque mais il y en a pas eu de nouveau modèle. Il y a eu un rafraîchissement, le Xeon est passé de 2,8 GHz à 2,9, enfin rien quoi. Donc je suis pas sûr que c'est une machine qui existe parce que elle a un historique, elle est jolie à regarder, ça fait pour l'image de marque d'Apple, l'iMac est intéressant, mais je pense pas que ce soit un très gros marché aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc ça j'y crois plus, ouais, effectivement.
Gilles, tu voulais réagir ?
Oui. Ça ne l'est plus, mais il y a quand même une demande. Sur l'éducation et l'éducation supérieure pour les salles informatiques, les labos. Là, c'est pour le coup François qui nous en parlerait savamment. Et puis, alors, on va reprendre un coup de vieux, mais je suis désolé, le basculement Mac de bureau vers le Mac portable date de 2001-2002 de mémoire, où déjà à cette époque-là, 60% des ventes de Mac étaient sur du MacBook Pro ou de l'iMac ou du MacBook ou de l'iBook, pardon. Donc c'est une tendance qui est très très longue. On doit être à 80% maintenant, si ma mémoire est bonne. À la louche de discuter avec des revendeurs, mais il y a quand même des gens qui sont attachés à ce format. Et je crois qu'il ne faudrait pas non plus confondre l'iMac à grand écran et l'iMac Pro. C'est ce qu'on disait dès le début, hein, que c'était vraisemblablement une machine de transition pour pallier aux difficultés du Mac Pro, quoi.
Quand termes galants, ces choses-là sont dites, moi j'avais parlé de bouche-trou, mais machine de transition, c'est mieux.
C'est ça. Bon, en tout cas, on est peut-être plus très loin de cette keynote du mois de mars. On va suivre et on va attendre une éventuelle confirmation. En tout cas, on peut s'attendre à un déferlement d'iPad. À ces nouveaux iPad Pro à écran OLED, moi je demande à voir le surcoût vaudra vraiment la différence de rendu. Et puis du M3 pour tous et pour les Mac, sans doute une autre salve dans l'année. Alors est-ce que ce sera à la WWDC au mois de juin ou à un autre moment, il est encore trop tôt pour le dire. Un petit message important pour nous, si vous appréciez iWeek, notre boulot, vous pouvez rejoindre la communauté iWeek sur Patreon, ça contribue aussi à nous soutenir, vous aidez ainsi à ce que cette aventure continue et prenne de l'ampleur. La page iWeek sur patreon.com/iWeek vous attend. On en profite pour remercier tous nos soutiens Patreon et vous aurez notamment accès au bonus qu'on va enregistrer juste après le générique de fin. On passe au journal de la semaine avec quelques infos et on va commencer par une petite mise à jour mais qu'on vous conseille toujours d'effectuer, mise à jour 17.3.1 d'iOS. Fabrice, Pour raison de sécurité, on conseille toujours de les faire. Après, les nouveautés ne sont pas forcément à se rouler par terre, mais...
Non, bah pas pour ça. En plus, c'est vraiment un point 1, donc il ne se passe pas grand-chose. A priori, il y a surtout un bug qui touchait le texte avec... on tapait notamment dans l'application Notes, et puis on avait du texte qui pouvait se mettre par-dessus, des lignes qui se superposaient plutôt que d'être les unes en dessous des autres. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'est la même chose pour macOS Sonoma 14.3.1 qui annonce cette correction de la correction de ce bug, et c'est sur mon Mac, c'était 1,2 gigaoctets à télécharger pour corriger ça.
Wow.
Donc je suppose qu'il y a autre chose dessous qu'on connaît pas, mais je trouvais que c'était quand même énorme comme téléchargement pour corriger ça comme bug. Oui.
C'est là que t'es content d'avoir une bonne connexion à Internet, comme on dit.
Exactement.
Gilles, l'iPhone SE, quatrième génération, bon, pas avant l'année prochaine, hein, si on en croit la rumeur, il s'inspirerait assez largement du design de l'iPhone 15, et ça ferait 3 ans que le modèle actuel serait sorti. Apple n'est pas pressé, hein, de renouveler l'iPhone SE.
Non, mais ça ferait une moyenne, puisque la première génération, le gap qui sépare la première génération de la seconde était de 4 ans, et là on serait de 3 ans.
Oui, ce serait un peu mieux.
Celle d'avant, c'était 2 ans, ce qui était franchement assez sympa, comme dirait François, dans la mesure où on avait une possibilité de faire tourner aussi sur le marché de l'occasion, qui est assez vivace sur ce modèle, parce que il y a vraiment une clientèle pour ça, pour ces petits écrans, et c'est ce qui me fait un peu tiquer, dans la mesure où ça reprendrait apparemment le design de la taille d'écran beaucoup plus proche des modèles actuels, ce qui me semble aller un peu à l'encontre de l'esprit de l'iPhone SE, qui a toujours eu des écrans plus petits que la gamme à un instant T. Et du coup, est-ce que il ne va pas se couper de sa clientèle fidèle qu'il adopte justement pour ses petits écrans?
Autre rumeur, elle concerne les futures puces gravées en 2 nanomètres par TSMC. TSMC en aurait fait la démonstration, notamment à Apple récemment. Alors on s'attend à ce que ces puces arrivent en toute fin d'année prochaine, donc fin 2025, ou plus vraisemblablement courant 2026. Ça veut dire que les prochaines versions des puces M3, et on pense notamment au M3 Ultra qui devrait se retrouver dans le nouveau Mac Studio qui pourrait être annoncé au mois de juin à la WWDC, sera encore en 3 nanomètres, mais une évolution du 3 nanomètres, pas celle du A17 Pro, des M3 et M3 Pro et M3 Max, mais on va dire une meilleure gravure, une optimisation du processus, Fabrice.
Bah, je sais pas quoi dire là-dessus, parce que on verra bien. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que la relation entre Apple et TSMC est toujours aussi étroite, notamment parce que en gros Apple arrive en disant j'achète tout, et donc TSMC forcément fait une démonstration à Apple en disant regardez, on peut faire encore un peu mieux, ça vous intéresse, mais bien sûr vous m'en mettrez 300 millions, et puis voilà. Apple continue son travail d'optimisation et d'amélioration de ses puces, il n'y a rien de d'étonnant là-dedans. Peut-être qu'en tout cas le 2 nanomètres, moi je verrais plutôt ça pour le M5 plutôt que pour le M4, hein.
Ouais,
non, parce qu'il y a une je vous en avais parlé à l'époque, et c'était un peu la raison pour laquelle j'ai attendu, j'ai peut-être fait le héron, hein, au long bec en manché dans le cou de la fable, mais j'ai laissé passer la génération actuelle de MacBook Pro en attendant cette amélioration qui était dans la roadmap de TSMC, de toute façon, avec une amélioration de la gravure, dans la mesure où on est un petit peu sur de la démonstration et du... On n'est pas sur du bricolage, mais on est sur du prototype de masse.
Peut-être pas quand même, non.
On est sur du prototype de masse. On est, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement pointu. Et il y a une deuxième génération, 6 mois plus tard, qui était annoncée, avec une stabilisation de la gravure en 3 nanomètres, et sur laquelle comptaient beaucoup les concurrents d'Apple pour pouvoir avoir enfin accès à ce type de gravure extrêmement efficace.
Ouais, mais tu sais, Gilles, on peut toujours attendre la génération d'après qui sera toujours mieux, donc tu peux attendre éternellement.
Non, c'était le nombre de cœurs logiques, de cœurs graphiques, pardon, au contraire, qui m'avait fait un peu tiquer, même s'il y a des études assez sérieuses là qui ont été menées sur l'intelligence artificielle, le machine learning, qui montre que même avec un nombre de cœurs plus faible ou égal ou inférieur à la génération précédente, le MacBook Pro de milieu de gamme est quand même assez efficace et davantage que le M2, qui pourtant avait deux cœurs graphiques, je crois, supplémentaires par rapport à...
Oui. On va rappeler que tu avais le projet d'acheter un MacBook Pro M3 Pro et que les premiers retours t'ont dissuadé d'aller au bout de ta commande. Fabrice, je me tourne vers toi, parce que je sais que tu as changé de Mac ces derniers jours. Mm-hmm. Tu as fait une bonne affaire et je crois que tu en es très content.
Oui, j'ai remplacé mon Mac Mini par un MacBook Pro M1 Pro 16 pouces. C'était ça aussi, il me semble que Ellie hésitait entre 14 et 16, toi t'as pris 14, ma chérie elle a un 14, et puis je me suis lancé sur un 16 pouces, j'en suis très content. Et c'est vrai qu'en plus, donc moi j'ai acheté ça d'occasion, sans vouloir aller plus loin, trop loin dans la réflexion, mais les prix pratiqués par Apple qui augmentent beaucoup, c'est vrai que les 2 800 € d'un MacBook Pro 16 pouces m'avaient largement fait reculer. Là, j'ai eu une meilleure affaire. En gros, je l'ai payé la moitié de ça. Du coup, ça vaut le coup. En tout cas, moi, j'en suis très content, effectivement. Et je reste au M1 Pro. Je trouvais déjà, de toute façon, que le Mac Mini M1 était formidable. Alors là, j'ai un M1 Pro. Bah, je suis très content. Et l'écran est donc formidable, comme tu sais, hein, parce que c'est le même que le 14 Pro.
Et oui.
Et donc, youpi. Donc, effectivement, je rebondis sur ce que tu disais, Agile. On peut toujours attendre pour avoir mieux. Ou on peut aussi toujours attendre pour avoir très bien pour moins cher.
Voilà. Deux options. Vous vous souvenez peut-être pas de son nom, mais vous vous souvenez de ce qu'il avait fait. Si je vous parle de Xiaolong Shang, c'est un ancien ingénieur d'Apple qui a été pris en flagrant délit d'espionnage industriel, hein, qui avait volé des données confidentielles sur le projet Titan, donc le projet de voiture Apple. Eh bien, il a été condamné à 120 jours de prison. 4 mois en gros, 3 années de liberté un peu conditionnelle, et puis une amende de $146,984. Il s'en sort pas si mal, je trouve.
Alors pour un temps un peu blagueur, j'aurais envie de dire que la condamnation est relativement faible, mais peut-être à la hauteur de la pertinence du projet d'Apple. Moi, je ne crois pas du tout à la sortie de la voiture, et donc finalement, peut-être que ce qu'il a piqué, ça n'intéresse personne, et donc finalement, c'est pas grave.
Bonne réflexion.
Il y a peut-être des dommages-intérêts à venir qui s'annoncent. Et là, effectivement, il risque de payer ou d'être endetté jusqu'à la 7e génération, comme disent les avocats d'Apple.
Bon, je vais passer assez vite sur les 2000 épisodes du podcast de Joe Rogan, qui est désormais disponible sur Apple Podcast. Maintenant que son exclusivité avec Spotify a pris fin, je ne suis pas sûr que ce soit très grosse acquisition pour Apple Podcast, enfin en tout cas en termes d'intérêt. Je ne doute pas que l'audience sera au rendez-vous.
C'est ouvert, donc il veut être présent sur Apple Podcast.
C'est ça.
Apple ne lit, c'est pas tellement une acquisition que bon, tu veux venir, tu viens, et il faudra voir au niveau des revenus publicitaires. Je serai Apple, je les donnerai à une organisation caritative ou antiraciste.
Il n'y a pas de revenus publicitaires, Gilles, sur les podcasts, mais ça va faire venir de l'audience sur la plateforme et donc rééquilibrer un petit peu les chiffres, sans doute en faveur d'Apple Podcast, notamment par rapport à Spotify. Ça, c'est sûr. Alors, la troisième saison de Foundation, la série vedette d'Apple TV+, est en tournage. Mais alors qu'on a l'impression qu'Apple a des moyens illimités, eh bien, ce tournage a été mis sur pause, le temps de trouver moyen de faire quelques économies. Et ça, c'est une nouvelle un peu surprenante, parce qu'on avait l'impression que Apple ne comptait pas. Et je suis sûr que Thibaut Bisson, s'il nous écoute, avait un peu la même impression.
C'est marrant parce que moi ça m'étonne pas tant que ça. Je suppose que c'est pas la série qui marche le mieux quand même. Alors contrairement à beaucoup et notamment à Fred Crassa avec qui j'en avais parlé un petit peu, moi j'avais été très content de la première saison et de la seconde un peu moins. Il m'a répondu en m'appelant de tous les noms en disant mais t'es fou ou quoi, la saison 2 est formidable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aussi très clairement ça coûte très cher à faire. J'aime bien écouter les podcasts qui sont officiels d'Apple sur le sujet et souvent donc le créateur de la série dont le nom m'échappe là maintenant qui est interviewé à chaque fois, il parle de justement c'est super, on a été avec Apple parce qu'ils ont plein d'argent et donc en gros, en termes presque pas cachés, il dit on a des demandes et on leur dit tiens, ça va coûter 10 millions, c'est pas grave. Et ils se lancent dans des trucs totalement somptuaires. Ça se voit à l'écran, hein, c'est très beau, etc. Mais peut-être qu'au vu des résultats de visionnage, Apple a commencé à dire c'est bien, mais enfin on va peut-être arrêter là parce que ça coûte énormément cher. Et le créateur le dit en disant on a des moyens, on fait un film à chaque épisode, quoi. Donc je pense qu'il y a un moment, c'est dur quand même pour Apple, hein.
Alors en fait, la saison 3 avait commencé à être tournée avant le début de la grève, vous savez, des acteurs et des scénaristes. Donc le tournage avait été interrompu à ce moment-là. Il devait reprendre là très récemment. Et au moment où tout le monde était en train de converger vers le lieu du tournage, tout le monde a été renvoyé à la maison en expliquant que la production cherchait des solutions pour... modérer le budget. La seule info qu'on ait, c'est que la saison 1 aurait coûté autour de 45 millions de dollars. C'est nettement moins, par exemple, que d'autres séries, hein, notamment Secret Invasion de Disney+, qui a coûté plus de 200 millions de dollars, hein, pour une saison. Donc tout ça est très relatif. On n'a pas d'infos exactes. Tout ce qu'on sait, c'est que le tournage n'a pas encore repris. Et donc, on se dirige vers une sortie de cette saison 3, si les délais sont respectés, au mieux à l'automne 2024 et peut-être même l'année prochaine.
Ça faisait partie des choses que Apple avait beaucoup mis en avant pour le lancement d'Apple TV+. Si effectivement les résultats sont un petit peu moins bons sur la deuxième saison et la grève des scénaristes et des acteurs a coûté beaucoup d'argent. Chez Apple, chaque dollar investi, il est mûrement réfléchi. Donc, c'est pas étonnant que si, d'un point de vue conjoncturel, il y a eu des difficultés et sur le projet lui-même, il y en a également, c'est pas étonnant s'il resserre les boulons.
On va rester sur Apple TV+ avec nos coups de cœur de la semaine, nos cartons éventuellement. Je parle d'Apple TV+, Gilles, parce que je sais quel est ton coup de cœur et je sais que ça fait bien 15 jours que tu as envie de nous en parler.
Oui, Bon, c'est tu le sais, mais c'est marqué dans le conducteur aussi. Donc, il y a un petit indice. Mais même au-delà des attentes, des espérances que je pouvais avoir par rapport à cette série, ça serait sympa d'avoir quelqu'un qui a participé au tournage pour pouvoir nous en parler, parce que on parlait d'immersif. Master of VR sur casque Vision Pro, ça serait extrêmement impressionnant, quoi. L'immersion, pour le coup, même sur un écran d'ordinateur, je parle même pas d'un téléviseur ou d'un visioprojecteur, est extrêmement impressionnant. Il y a du fond, comme il y a pu y avoir il y a 20 ans encore dans Band of Brothers. La réflexion qu'on peut avoir sur le courage de ces types, c'est tiré du livre d'un vétéran, mais on voit dans quel état rentraient les B-17. En s'intéressant à l'aviation, on a beau savoir que le B-17 était solide, quand on voit dans quel état il rentrait, c'est absolument hallucinant, quoi.
C'est un peu une boucherie aérienne, hein, faut quand même dire.
Ah oui, ils ont donné, ils ont payé un tribut. C'est pas un hasard si les Anglais et les Allemands ne bombardaient que de nuit ou presque pour les bombardements stratégiques. Donc il y avait une volonté un a priori de. Au départ, ils devaient même être censés se défendre tout seuls.
On voit aussi la jeunesse des soldats, parce que ils ont tous un rôle évidemment à bord des avions, mais les navigateurs qui disent quand même quel cap il faut prendre pour aller ici plutôt que là, je veux dire, sont complètement expérimentés, se retrouvent dans des situations de stress et on voit les avions pile sur la DCA allemande alors que ils voulaient rentrer à la maison, donc.
Oui, parce qu'il a loupé.
Ça, une très grande fragilité aussi.
Il a loupé le moment. On va pas faire du spoiler, mais il a loupé le moment où il fallait tourner, où il fallait s'arrêter, et du coup, il se retrouve 100 miles trop loin, et il commence à se faire taper dessus par la flak, effectivement, mais. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement réussi. On voit tout le travail qui est fait par Spielberg et par Tom Hanks. Je pense qu'il y a un vrai respect.
Qui sont producteurs.
Qui sont producteurs. Il y a un vrai respect pour ces gens qui se sont battus et qui ont vraiment risqué leur vie. J'attends avec impatience le moment où va arriver l'escadrille de chasse qui était composée de pilotes noirs et qui vont faire preuve de leur excellence, alors que les gens de l'institution ne voulaient pas leur faire confiance.
Voilà, Masters of the Air sur Apple TV+, le coup de cœur de Gilles, sans surprise, j'ai envie d'ajouter. Fabrice, est-ce que tu as un coup de cœur toi aussi ?
Oui, mon coup de cœur, c'est un site web qui s'appelle deck.blue, deck.blue, et c'est en lien avec le réseau social Blue Sky, qui est maintenant ouvert à tous. Il n'y a plus besoin d'invitation pour s'y inscrire. Au final, c'est plus j'avance, plus c'est comme celui qui me plaît le plus, qui est pas le plus utilisé encore, mais peut-être que ça va. En tout cas, il progresse un peu plus vite maintenant qu'il a plus besoin d'invitation. Et deck.blue, bah, c'est fait par un des gars qui faisait TweetDeck à l'époque, donc qui permet d'avoir une présentation en colonne pour avoir un peu plus d'informations que le simple fil de Blue Sky. Donc c'est intéressant si on va aller un petit peu plus loin dans l'utilisation de Blue Sky, qui alors pour dire 2-3 mots sur Blue Sky, je trouve le réseau agréable, bien fait. Il est un peu à la traîne malgré tout, alors encore par rapport à X que moi j'utilise plus, mais qui a encore beaucoup d'utilisateurs. Mastodon est encore devant. Mais je trouve que c'est un bon compromis entre les deux, en fait. C'est-à-dire que Mastodon s'est notamment lancé en disant pas d'algorithme pour trouver à votre place les contenus qui vous intéressent, sauf que de temps en temps, les algorithmes, c'est quand même bien pratique pour trouver des choses, et je trouve que l'approche de Blue Sky est assez intéressante, d'avoir des algorithmes qu'on maîtrise quand même beaucoup plus que ceux de X, pour vraiment voir ce qu'on a envie de voir et ne pas voir ce qu'on ne souhaite pas voir. C'est bien fait. Pour l'instant, c'est encore un réseau un peu calme, mais globalement, je trouve ça intéressant. Donc voilà, deck.deck.blue pour aller un petit peu plus loin dans l'utilisation de Blue Sky.
Super, merci Fabrice. Moi, mon coup de cœur, alors c'est pas un nouveau produit, hein, c'est un produit que j'ai refusé d'acheter pendant des mois. à cause de son prix prohibitif, pourtant tout ça est assez symbolique, mais voilà, je n'ai pas voulu encourager cette politique de prix. J'ai attendu d'avoir une occasion de le payer un peu moins cher, de la payer un peu moins cher. Et oui, je parle de la chiffonnette Apple, vendue toujours à 25€ sur le site d'Apple et en magasin. Et j'ai vu passer une promo sur le site qui commence par A et qui termine par zone, dont on ne veut pas non plus faire trop la promotion. Mais j'ai récupéré donc la chiffonnette à moitié prix. Je l'ai payé 13€. Et là, à 13€, je trouve que ça devient raisonnable, parce que c'est une très bonne chiffonnette. Dans une belle, belle boîte.
Voilà, je vais... Ah, mais tu vois.
Il y a la boîte. Hein,
attention.
Pour
les auditeurs qui ont la chance d'avoir la couleur, nous avons la boîte.
Voilà. Polishing cloth en anglais, c'est quand même beaucoup plus joli que chiffonnette. Et donc voilà, elle est toute belle et bien pliée à l'intérieur. Alors c'est pas du tout un produit nouveau, vous l'avez déjà vu partout, mais elle est très bien. Et voilà, je trouve qu'à 13€, là je dis ok, et je pense qu'Apple devrait suivre. Je sais pas comment Amazon l'a eu à ce prix là mais c'est forcément qu'Apple lui a vendu, donc Apple devrait appliquer le tarif à ses propres boutiques et vendre la chiffonnette désormais 12-13€. Ce serait un très très bon geste pour nous. Voilà, c'était l'épisode 172 d'iWeek, la semaine Apple. Si vous aimez notre rendez-vous, abonnez-vous à l'autre podcast iWeek, iWeek Express. Sur toutes les plateformes, c'est aussi gratuit. On a besoin de vos notes 5 étoiles sur Apple Podcasts et de vos avis pour donner envie à d'autres. Et puis bien sûr, pour rejoindre la communauté et nous soutenir, patreon.com/iWeek et vous profiterez du bonus qu'on va enregistrer dans un instant. Merci beaucoup les amis. Merci Fabrice Neumann, c'est trop chouette de te retrouver.
Merci mon capitaine. C'était un grand plaisir.
Donc salut Gilles.
Salut Benjamin, salut Fabrice et à la semaine prochaine, j'espère.
À la semaine prochaine, on fait une grosse bise aux absents, François Le Truédic, Elie Abitbol qui est au fond de son lit, à qui on pense. Elie, j'étais tout près de toi, je suis même passé devant MCS cette semaine. Je reviendrai avec grand plaisir quand tu seras en meilleure forme et on espère que ce sera très très vite. N'oubliez pas iWeek sur les réseaux, sur Blue Sky, Mastodon, Threads et encore sur X, ex Twitter. Partout un seul hashtag iWeekLSA. À très vite pour la suite, à tout moment avec iWeek Express et la semaine prochaine pour l'épisode 173. Salut à tous, bye bye.
Bye bye.